Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, ces rencontres, le plaisir d'une rencontre ce dimanche matin, une rencontre avec Ali Guessoum. Bonjour Ali.
Bonjour Samia.
Vous allez bien?
Je veux bien, je vous remercie.
Et vous? Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. Ben oui, ça va très bien. Et en plus de ça, on va passer une heure ensemble, une heure pour présenter ce livre. Attention, travail d'arabe ou la déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes. C'est le sous-titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Atland. On décrira, parce qu'il est visuel ce livre, évidemment, puisque c'est de graphisme et d'expression artistique que nous parlerons avec vous autour de ce livre. Mais avant de parler de tout ce travail d'homme artistique, d'homme engagé, on va peut-être vous présenter Ali Guessoum. Ali Guessoum, vous êtes fils d'immigrés algériens, comme on dit aujourd'hui, de la deuxième ou de la troisième génération, je ne sais plus moi.
On les compte plus.
On les compte plus, hein, les générations. En tout cas, vous appartenez à la France, vous le dites souvent avec détermination, à la fois dans cet engagement que vous avez au travers votre travail, et vous avez suivi des études de sociologie, et ensuite vous avez fondé une agence de communication qui s'appelle Semblant, et au travers cette agence de communication, à la fois dans ce que je disais il y a un instant, dans votre personnalité, être attaché à une histoire, à une mémoire, celle d'être fils de l'immigration et d'appartenir à la France, et ben voilà, tout cela combiné, l'artistique, la création, ce qu'on va appeler souvent le devoir de mémoire, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez beaucoup travaillé sur l'image et sur voilà les stéréotypes qui sont dits, qui sont répétés, qui sont imagés aujourd'hui dans la société française, dans la mémoire collective. Et ce, n'en déplaise à certains, vous avez eu décidé de tordre le cou à ces images justement qui existent et qu'il faudrait peut-être balayer d'un coup de pelle d'ailleurs, comme fait ce travailleur dans ce attention au travail d'arabe, ou dans l'image authentique c'est effectivement un travailleur qui prend la pelle, mais là on voit que ce travailleur est arabe et il a mis dans sa pelle des tonnes de sable. Et ce sable qui a été aussi, qui a forgé les pyramides. C'est quand même pas rien. Donc on dit travail d'arabe, mais ce travail d'arabe, il a forgé les trois pyramides qui sont l'une des merveilles du monde. Voilà pour vous présenter rapidement. Alors une fois que j'ai dit tout ça, je vais vous laisser la parole pour nous en dire plus et nous dire comment naît de votre esprit, de votre corps, de votre engagement, toute cette expression artistique engagée, Ali Guessoum.
Mais elle est née, elle s'est forgée au gré de mon expérience dans la communication. J'ai longtemps fait des images de commandes, des images, j'ai répondu aussi à des textes, parce que c'est pour moi, les images n'ont d'intérêt que si elles ont un sens, sinon c'est du papier peint. Donc il y a évidemment la nécessité de lui donner corps avec une matière qui est le mot, le langage est important. Et donc j'ai répondu à des commandes avec mon agence de communication, des commandes dans le domaine du sociétal, de l'humanitaire, de l'engagement avec la Ligue des droits de l'homme, avec le collectif Attaque de lutte contre les dérives de la mondialisation, dont on avait dénoncé déjà il y a près de 18 ans là maintenant les méfaits, avec une série d'affiches où j'avais utilisé l'idée de l'humour et de la dérision comme socle de base. Et la réflexion aussi pour toucher le plus grand nombre, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver un univers graphique et langagier pour que tout le monde...
Qui parle à tous.
Qui parle à tous, sinon on fait une exposition pour des graphistes ou uniquement des communicants. Donc moi j'avais à cœur avec l'exposition pour Attaque à l'époque, de dire il faut qu'on s'adresse à des étudiants, il faut qu'on s'adresse et qu'on soit compris par des chômeurs, il faut qu'on s'adresse au monde de ouvriers, au monde de l'économie, à des gens pour qui les questions de l'écologie aussi ont une importance. Donc il faut un langage universel, et quoi de mieux que la publicité, le cinéma ou la chanson, parce que c'est populaire. Donc il y a un terrain là intéressant à creuser. Donc j'ai abordé des questions très graves, comme faire travailler des gamins avec Nike qui faisaient bosser des mômes à Singapour ou à Jakarta pour 10 centimes par jour, et qui fabriquaient des chaussures vendues après à 600 euros. Donc on avait fait une pub qui détournait les codes de Nike, avec le logo de Nike qui devenait un bras d'honneur et qui était pousser les limites de l'exploitation. Donc à partir de là, ça donnait une veine comme ça d'un certain nombre de visuels très qui claquaient comme ça avec le mot et l'image. Et c'est ainsi que j'ai continué à poursuivre même ce travail de mémoire aussi et d'histoire dans le domaine culturel avec l'Orchestre National de Barbès, par exemple, où j'avais conçu la première pochette du premier album magnifique qui avait été enregistré en live et qui était emblématique. Et on avait pris fait et cause pour mettre un gnawa en couverture. Et c'est pas anodin, c'est montrer, rappeler aux gens que c'est de la musique afro-berbère et qu'il y a aussi une négritude dans le Maghreb et qu'il y a des Noirs en Algérie qui occupent même 80% du territoire et que c'est bon de rappeler que les racines aussi, elles sont berbères et aussi africaines. Donc à l'intérieur de cette pochette, j'avais repris des visuels de Selecto, de Slimane Azam pour aussi rendre hommage et quelque part avec, c'est comme une matière, comme un peintre avec des couleurs, avec de la gouache, c'est de travailler cette matière là qui est notre patrimoine culturel et historique et de le triturer, de le restituer sous une autre forme un peu plus moderne et populaire.
Alors on reviendra justement sur le décryptage un petit peu des visuels qui sont dans votre livre, parce qu'il y a là près d'une quarantaine, une cinquantaine, enfin peu importe le nombre, en tout cas il y en a suffisamment qui donnent bien l'expression de ce que vous nous décrivez là autour des de ce que vous avez voulu faire passer par message. Et justement, est-ce qu'on peut dire que une affiche publicitaire, par définition, elle est un message, elle veut dire des choses, et quand vous détournez une affiche publicitaire ou d'information, vous lui tendez le cou pour lui donner autre chose, c'est aussi le parti pris, ce message que vous voulez faire passer?
Oui. Il y a évidemment des fois la pertinence d'un produit, on va dire, de consommation. Je prends l'exemple de détourner le paquet de
gitane, oui, je pense que
c'est pour dire gitan, un rejet sans filtre. Oui, c'est effectivement plus facile de faire passer le message de discrimination à l'égard des gens du voyage à partir d'un paquet connu depuis des années 50,
oui.
Hein, le paquet de gitane est très connu. Alors c'est vrai que les voluptes fumées qui avec un air un peu de séduction avec cette gitane, quand on le transpose dans un monde plus masculin et avec une famille de gitans qu'on rejette de part et d'autre, y compris de la part de certaines populations héritières de l'immigration. Hein. Il y a eu des descentes en Seine-Saint-Denis contre les populations roms organisées par des gens de l'immigration, issus des Maghrébins en l'occurrence. Donc c'est aussi une manière de rappeler, de dire attention, il y a eu des ratonnades.
Voilà, chacun son tour dans ce triste...
C'est pas le dernier qui est arrivé qui ferme la porte.
Voilà, c'est
donc
ça.
Il faut balayer devant sa porte et combattre le racisme et la xénophobie où qu'il soit, partout. Sans concession.
Gitan, un rejet sans fil, c'est effectivement le visuel qu'on ne voit pas à l'antenne, mais que je vois sous mes yeux. C'est effectivement ce paquet de gitane qu'on disait sans filtre.
Mais il n'y a plus la gitane, il y a le gitan, la gitane.
Et puis un enfant. Donc effectivement, il a été détourné, et pour en revenir à quelque chose qui soit dénonciateur d'une certaine manière. Et voilà. Donc là dans toutes ces affiches que vous avez faites, elles parcourent le temps, d'abord, justement, de mémoire, le temps mémoriel, la mémoire veille au grain, voilà, je tombe sur le couscous clan, donc le détournement d'un paquet de couscous, hein, que chaque famille française ou émigrée va acheter pour faire son couscous, et en fait, ça devient le couscous clan, et qui rappelle que, voilà, il y avait le temps des colonies, et qu'il y avait cette image un peu, l'image un peu... contemporaine de cette femme sur le chameau, du colon à côté, et puis c'est 100% colonial, quoi.
Eh oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut que la mémoire veille au grain, justement. C'est justement de mettre son grain de sel là-dedans, et voilà. De faire un travail de restitution d'une mémoire oubliée ou spoliée. Vous avez commencé tout à l'heure avec l'expression attention au travail d'arabe, et le travail d'arabe, effectivement, non seulement c'est aussi provocateur, le titre de l'exposition, pour rappeler que c'était avant tout un qualificatif qualitatif, hautement de distinctif pour dire ça, c'est un travail précieux et de qualité,
de précision.
Et, de précision.
Okay.
Et c'est comme ça qu'on désignait l'Alhambra, les travaux.
Les orfèvres, voilà. Les...
Issus de l'âge d'or de l'islam à l'époque des Andalous, et puis de tous les progrès techniques qu'il y avait, parce que c'était la Silicon Valley à l'époque.
Hein,
les meilleurs savants étaient là, les poètes.
La Silicon Valley arabe, voilà, ça aussi, c'est une belle idée.
C'était, les meilleurs étaient là-bas. Hein, ils travaillaient entre Cordoue, Grenade. Et donc, c'était aussi une manière de dire, avant, cette expression-là, c'était du bon. Après, la colonie est venue par là. La colonisation est venue par là avec ses dégâts et ses dommages collatéraux, et elle a laissé l'empreinte de choses négatives qu'on a repris après dans le monde du bâtiment, disant un travail mal fait c'est un travail d'arabe, mais c'était aussi les conséquences aussi de l'exploitation humaine de toute l'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord et de l'Algérie.
Alors on va...
Je parle de l'Algérie, mais j'oublie pas le Maroc, la Tunisie et une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest.
On va alors se dire qu'il est temps de réhabiliter la vraie expression.
C'est notre travail en tant qu'héritier.
Voilà. Et c'est le travail en tant qu'héritier.
Oui, nous sommes des héritiers d'immigration.
C'est votre travail dans cette démarche-là aussi.
Ah, essentiel.
De sensibiliser, bien sûr.
Il y a une démarche d'éducation populaire.
Et cette éducation populaire, elle est adressée à qui? Alors, quand vous faites une exposition, toutes ces affiches qui sont recensées là dans cet ouvrage, c'est aussi des affiches qui vont rappeler que vous avez réalisé une exposition, c'est à destination d'un public jeune, c'est un devoir d'éducation, on parle de devoir de mémoire souvent, mais là, c'est presque un devoir d'éducation que de les mettre à la vue des jeunes.
L'idée, c'est de fournir... d'avoir une double cible. La première, c'est et la principale, la plus importante, c'est la jeunesse. C'est d'amener des éléments de langage à une partie de la jeunesse qui n'arrive pas à se situer dans les curseurs de l'histoire, dont notre histoire un petit peu méconnue est traitée de manière pas suffisamment conséquente, voire pas du tout traitée. Qu'on a la capacité d'avoir notre propre narration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, comme disait l'autre, si l'histoire du lion était racontée par l'histoire du chasseur était racontée par le lion, on n'aurait pas forcément le même récit. Donc c'était l'idée justement de se raconter, de trouver, de combler des failles et des manques dans les programmes scolaires. Parce que on a présenté ça dans des classes, dans des collèges, dans des lycées, et les profs nous ont couru après en disant nous avons besoin de vos outils parce qu'ils sont formidables. C'est pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais c'est effectivement parce que ça répond à une absence.
Alors justement,
cette dose d'humour qui permet aussi, avec l'ironie et le second degré, néanmoins d'aborder des choses extrêmement importantes de l'histoire.
Alors vous faites tout cela parce qu'il y a absence, comme vous venez de le dire, et vous le faites. Avec colère ou surtout parce que c'est important de le faire. Il y a un peu des deux. C'est important de souligner ça. Souvent, on est en résistance par la colère.
Que de colère.
Il y a plus de couleurs que de colère, absolument.
On a passé le stade de la colère. J'ai ruminé ça d'une certaine manière enfant, ou parce que j'ai aussi hérité d'une forme d'injustice quand on est enfant.
Il y en a marre du racisme, il y en a marre des injustices, il y en a marre de tout ça. Et quand il y en a marre, c'est un peu la colère. Il faut faire. Et vous faites.
Voilà. On fait, on essaye de transmettre aussi, de partager, parce que c'est aussi l'idée d'amener une culture en partage. Et la double cible, c'est aussi les parents, c'est aussi le commun, c'est aussi rappeler, et c'est pas simplement montrer des affiches à des petits noirs ou des petits rebeux, c'est en
à
parler
à des petits Stéphane et à des petits Pierre-Paul Jacques.
Exactement,
oui,
voilà, c'est aussi bien intégrer des lycées du 7e arrondissement, du 14e, c'est aller dans des collèges catholiques, c'est aussi de dire voilà l'histoire de France. L'évolution, en tout cas, d'un certain nombre de clichés racistes qui ont fait qu'il y a eu des injustices qui sont nées aussi d'injustices, nées à des faits coloniaux, nées à des particularités historiques ou culturelles, et de montrer dans l'évolution un peu de ce regard de la société française comment un certain nombre de populations, à tour de rôle, hein, parce que là on a parlé tout à l'heure des gitans, on a parlé du fait colonial, le Yabon Banania avec le paquet, la boîte, et
qui a fait des générations d'enfants qui ont bu du chocolat avec le Yabon Banania.
Qui existe toujours.
Sauf qu'il est interdit. Je crois que le MRAP avait, il y a quelques années, dénoncé le fait que sur la boîte de chocolat Banania, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus marqué Yabon Banania. On voit encore l'image coloniale, mais il n'y a plus.
On a substitué le Yabon.
On a enlevé, il est bon.
Ouais. Mais il reste encore l'image du noir avec Banania.
Absolument, bien sûr.
Donc c'est un peu...
Ce qui avait révolté Léopold Senghor, le président du Sénégal, en disant que ça cesserait quand il n'y aurait plus d'affiches, le racisme cesserait quand il n'y aurait plus d'affiches, s'ils savaient qu'il y en avait encore.
Ce qui est terrible,
sur les boîtes de chocolat.
C'est que c'est l'héritage de centaines de milliers de soldats qui ont péri pour le drapeau, qui ont combattu dans les tranchées.
Pour la France.
18, pour la France, et après, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que l'image de Banania a été l'image populaire qu'on a utilisée, qui a utilisé la publicité, tiens, puisqu'on parle de mémoire collective, et qui l'a utilisée dans ses produits. Et il y a aussi les paquets de cigarettes, le Zouave. C'est pour dire que la question, justement, de l'histoire, elle est fondamentale, l'histoire et la mémoire, pour la... éviter en sorte qu'elle soit kidnappée à des fins xénophobes ou voire même, on voit bien avec le Front National quand ils veulent débaptiser des places, que la question de la mémoire est essentielle. Donc nous, quand je dis nous, la société entière, c'est-à-dire l'éducation nationale, le mouvement associatif,
les citoyens, de manière générale,
on a tous intérêt à redonner les vraies clés de l'histoire à notre jeunesse et à l'ensemble du public et de la France, pour qu'on ne soit pas dépossédé de cette histoire-là. Parce que c'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va et qui on est.
On se retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois Ali Guessou, mais nous parlons de « Attention, travail d'arabe » ou « La déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes ». C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Atland.
Rencontre sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Ali Guessou, mais nous parlons de Attention, travail d'arabe ou la déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes. Son livre vient de paraître aux éditions Atland. Et tout au long de cette première partie de l'émission, c'était un peu Ali Guessou nous exposait comment il était important d'asseoir justement à la fois l'image dans la mémoire, l'image dans ce passé colonial, l'image dans le racisme et comment ces affiches qui avaient été produites de manière artistique, très artistique d'ailleurs, il y a un vrai travail artistique autour de d'une image publicitaire ou même d'une image inventée, parce qu'elle n'est pas toujours des détournements d'ailleurs. Histoire de France avec nos ancêtres, et on voit l'Hexagone avec énuméré tous ceux qui sont dans la France, c'est pas détourné, c'est aussi la vraie histoire dont vous parliez tout à l'heure, on appartient à la France.
Oui,
donc chaque image a une manière de dire, ouais, a une manière de dire, là c'est nos ancêtres, point de suspension, ben, les Gaulois, non, les Africains, les Arméniens, les Arabes, les Berbères, les Turcs, les Portugais, etc., etc., etc.
On en passe, c'est des meilleurs.
Voilà. Mais il n'arrête pas, Ali Guessou. C'est des idées à la minute, plein d'idées à la minute, ou c'est une observation aussi de la société qui vous fait, qui vous donne envie de créer.
Oui, c'est vital. C'est ma matière première. C'est l'observation, l'expérience aussi, le vécu. C'est le fait aussi, je pense aussi, d'aimer les gens. Donc, quand on les observe, c'est parce qu'aussi on a une vocation à être dans l'empathie ou dans la effectivement tout à l'heure vous en aviez parlé aussi dans la colère, parce qu'il y a des formes
dans
de
la colère, dans la dénonciation aussi.
Dénonciation et d'être un peu un lanceur d'alerte. De coller un peu des petits post-it ou de jeter comme une espèce de poil à gratter pour faire éternuer les mauvaises ou bonnes consciences. Et pour rappeler, voilà, sur certaines dérives qui existent, comme celle, par exemple, de l'affiche des migrants, moi, ça me paraissait important d'en parler, parce que c'est aussi,
les migrants, elle est le cœur de l'actualité, c'est une partie de l'image, c'est l'hémicycle. Et l'autre partie, c'est là où vivent les migrants. Mmh. Et voilà, il y a
une question
des gens d'un côté, des gens de l'autre. Et la question qui est posée, c'est, rappelez-nous. C'est une colle?
Hein?
C'est une colle, la question qui est...
Non,
voilà, qu'est-ce qu'elle symbolise dans votre...
Où se réfugient les droits de l'homme?
Où se réfugient, voilà, c'est ça.
Ils sont dans
l'hémicycle ou ils sont là?
Ils sont dans la chambre dépitée ou la jungle décalée. Voilà. La jungle décalée, évidemment, c'est l'hémicycle. J'ai inversé un peu le jeu de montre, la jungle de Calais et puis une jungle décalée qui, pour moi, était celle de l'Assemblée nationale. Parce que c'était proprement scandaleux, la position... De ce pays qui a inventé les droits de l'homme, humaniste, de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, l'attitude assez dure du gouvernement Valls et qui continue avec celui d'Edouard Philippe, enfin, donc qu'on passe de Hollande à Macron, la question des réfugiés par rapport à au drame humain qui se joue dans les pays, certains pays d'Afrique, en Syrie. On n'a pas, je trouve que c'est proprement, c'est dégueulasse ce qui se passe. L'égoïsme dont fait preuve l'Europe, qui se gêne pas pour piller une bonne partie de l'Afrique ou pour avoir des intérêts comme Lafarge en Syrie, après avoir cette attitude là qui totalement déshumaine à l'égard de gens qui n'ont d'autre solution que de fuir la misère, la famine ou la guerre. Moi, je trouve ça insupportable en 2018.
Alors, il faut dénoncer, il faut détourner un slogan publicitaire, et il faut surtout montrer que l'injustice, elle est en permanence, elle existe toujours, et il faut sensibiliser. Je pense à ces trois valeurs qui sont celles sur les frontons de nos écoles, de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Là, vous l'avez utilisé plusieurs fois, la Marianne, entre la Marianne ou liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment le socle de la République française. Et là, vous n'hésitez pas à dire que, voilà, il y a l'égalité de la fraternité, c'est quelques mots, M-A-U-X, évidemment. Là, il y en a que deux, mais voilà, parce que la liberté, on va la trouver un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a cette détermination toujours que vous avez à ancrer cette injustice, y compris dans les valeurs de la République.
C'est de la mettre devant la responsabilité. Si on a trois mots phares qui sont les socles de la République et qui sont au fronton même au-dessus des écoles et des mairies, il faut les appliquer. Et il faut donc une exemplarité de la République à l'égard de ses enfants, de ses concitoyens. Exemplarité au niveau, là on va parler un petit peu politique, c'est-à-dire l'accès à des droits les plus fondamentaux que sont les soins, l'éducation, le logement, le travail. Et que plus les années passent, plus les inégalités économiques ont aussi amené les plus pauvres à subir des injustices sociales. Et la plupart du temps, on trouvait dans ces discriminations, dans ces inégalités-là, les mêmes. C'est-à-dire, ce sont toujours des Arabes, des Noirs, des gens issus de l'immigration dans des quartiers populaires qui morflaient le plus et qui étaient, c'est aussi ma génération depuis les années 80, se retrouvaient diplômés, à cacher son nom dans un CV, à ne pas avoir de retour après des demandes de travail, de logement, à s'être vu refuser l'entrée dans une boîte de nuit. Tout le monde connaît la chanson, hein, je crois que ça va pas être possible qu'il chantait Zebda.
Ouais.
Et donc malheureusement, ce refrain montre bien qu'il y a des fois le disque est rayé, qu'il y a un petit souci avec ce droit d'exemplarité que doit avoir la République, de considérer tout à chacun comme un et indivisible. Et donc cette notion d'égalité qui a nourri aussi la marche pour l'égalité en 83. Donc c'est quand même ça fait plus de 30 ans, hein, 35 ans. Donc
et le refrain, on peut toujours le chanter.
Ah bah,
tristement, parce qu'il existe encore justement,
oui,
ce refrain d'injustice et d'inégalité qu'on vous avez.
Totalement.
Je vais rajouter à propos de ce livre qui a à la fois le visuel et ce graphisme audacieux, courageux et déterminé, je le répète, sur celui de liberté, égalité, fraternité que j'ai sous les yeux, c'est une rimsa, et donc les trois mots sont dans la main. Liberté, égalité écrit en gros, en noir, et fraternité en rouge, un peu penché. Et en regard de chaque image, il y a aussi un texte qui rappelle bien aussi pourquoi a été décrite cette image. Et là, justement, on a associé ces valeurs de la République à une valeur identitaire qui se trouve être religieuse, culturelle, sachant que la Rimsa, elle n'est pas fondamentalement religieuse, elle est plutôt culturelle, mais en tout cas, on l'associe aussi à l'islam quand on voit la main, parce que c'est en pays musulman qu'il y a cette main qui est celle de la fraternité, qui est celle de... Et ça, c'est important aussi, les textes qui sont au regard de vos affiches. Et en tournant à nouveau le livre, je vois qu'il y a aussi la main qui revient, comme la main jaune qui était celle de Touche pas à mon pote, qui devient, oui, Touche pas à mon vote. C'était aussi.
Ça a été une main dans notre gueule.
Oui, ça a été une main dans notre gueule. Oui, mais vous n'arrêtez pas.
Non, mais c'est vrai, c'est un épisode très très important. Merci d'en parler, parce que je venais d'évoquer la marche pour l'égalité contre le racisme. Et c'est vrai aussi que cette marche était fondamentale. C'est pas à vous que je vais l'apprendre à Beurre FM. Mais c'est quand même l'irruption sur la scène médiatique d'une génération entière qui jusqu'à présent était totalement invisible et inaudible et qui a fait irruption sur la scène médiatique pour réclamer des droits, des justes droits, parce que pour la plupart d'entre eux, ils étaient français, donc ils devaient avoir accès au même droit, et non plus être considéré comme du gibier des lapins de Garenne qu'on pouvait shooter à qui mieux dans les terrains vagues
dans les
bavures. Et c'est vrai que ce mouvement-là, qui était spontané, a été la première expression justement d'une narration. Voilà, une génération spontanée qui dit on se raconte, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous représenter, pour parler en notre nom. Et c'est vrai que la création des SOS Racisme était une manière totalement instrumentalisée de confisquer la parole et de même d'avoir une position paternaliste, voire un peu coloniste, de dire je vais parler en ton nom, ne touche pas à mon pote. Mais t'es qui pour parler en mon nom ? Laissez-nous nous exprimer. Et on a bien vu que ceux qui ont fait du beurre sur les beurres, c'est justement pas ces enfants d'immigrés. On a bien vu la carrière qu'ont mené les responsables, qui les a représentés en premier, que le gouvernement, l'Élysée, avait mis des moyens colossaux. Quand vous avez l'agence RSCG qui est derrière pour distribuer 500 000 pins, vous imaginez ce que ça peut coûter que d'engager un mouvement pareil, de distribuer à la Bastille. Il y a eu effectivement une récupération politique, d'où ma volonté d'en découdre un petit peu avec le passé, de dire touche pas à mon vote, parce qu'il n'est pas acquis. C'est pas parce qu'on est des Arabes ou des Noirs qu'on doit forcément voter pour vous, parce que malheureusement.
J'avais décidé de qui, voilà, pour qui je vais voter.
On a attendu des années une suppression de la double peine. Il a fallu que ce soit le petit énervé de Sarkozy qui le fasse. Oh. Et c'est encore lui, à notre plus grande surprise, qui a nommé une arabe ministre de la justice. Oh. On était quand même en droit de demander au Parti Socialiste qu'est-ce qu'il a fait pendant 25 ans.
Absolument. Maudits arabes. Ils ne sont pas maudits, hein, c'est en trois mots. Et puis vous savez, moi je suis attaché à la littérature, aux mots, donc je me régale en lisant dans votre livre aussi les maudits arabes, parce que les mots sont comme les hommes, ils voyagent. Ils sont partis de quelque part, une itinérance, voilà, l'itinérance des mots, c'est tout à fait. Et puis qui pouvait savoir que le mot lascar, macramé, magasin, mazout, aubergine, baobab, et il y en a plein d'autres, sont de la langue française.
Oui, il y en a presque 300, je crois, dans la langue française, hein, d'origine arabe ou perse. Et effectivement, oui, il y a beaucoup à Béziers, on parle arabe sans le savoir. Hein.
À Paris aussi. Mais à Béziers, il faut lui dire, faut le dire à Ménard.
Au monsieur Ménard.
Oui, bien sûr.
Quand il va prendre son kawa tranquillement, fait ça
au café du coin.
Au
kawa du coin.
Avant d'aller voir son toubib, il en aura bien besoin. Oui, il y a ces mots-là, on voyageait comme les épices et comme toute l'humanité depuis la nuit des temps, on est en mouvement. Et cette itinérance, ça le fait évoluer aussi, l'espèce humaine. C'est ce qui permet à une langue d'évoluer, à l'identité d'évoluer aussi, et de s'enrichir par la grâce des autres.
De cet apport, bien sûr.
Parce que c'est cette approche linguistique, enfin la langue française s'est enrichie de ces mots, comme s'est enrichie aussi de ces humains qui l'ont amené et qui l'ont permis de comme la langue espagnole a aussi près de 600 mots d'origine arabe. Et c'était bien aussi encore un devoir de mémoire de le rappeler, de rendre hommage justement à alors quand on demande souvent quand on parle d'intégration, bon c'est bien de dire que
ces mots ont été intégrés.
Merci pour l'intégration.
Merci pour leur intégration, puisqu'effectivement, dans cette page où sont énumérés de A à Z, à zéro, ou à Zob ou à Zouave, il y a vraiment beaucoup de mots qui sont énumérés et écrits en gros et rouge. Merci pour leur intégration. C'est quand même un clin d'œil, effectivement, à l'enrichissement de la langue française. Parce qu'il y a l'enrichissement des mots, puis l'enrichissement de la culture en général. On aurait longtemps à parler de l'intégration avec tous les apports.
C'est un des plats préférés, parce qu'on parle d'épices et de cuisine. Partie de l'enrichissement culturel.
Le couscous, oui, il a détrôné la pizza pour le coup.
Oui.
Voilà.
Bah oui, c'est ça. C'est...
Et puis pour les 80 ans de mamie, souvent il y a un couscous, mais mamie elle habite en Corrèze et puis elle est de Corrèze et ça fait partie de. Mais c'est ça aussi, le couscous, il n'est pas comme maghrébin, le couscous, il est aussi pour la mamie de Corrèze. On retrouve Ali Yessoum dans un instant pour la dernière partie de notre rencontre ce dimanche matin.
Rencontre sur Beurre FM. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
C'est pour ça que quand il y a quand on dit aux mères dans les écoles étrangères de faire des plats, il y a des copines qui disent, ah, machin et tout. Moi, je veux pas faire de l'exotisme. J'aime pas quand on demande aux mères de faire de l'exotisme. Je dis, mais si, c'est par là que ça passe. Le mafé, la femme française là qui habite dans une cité où il y a des Africains, des Français, des Maghrébins, le mafé, elle le goûte que là. Hein, si elle va pas voir, si elle ose pas aller voir la famille africaine parce que je sais pas quoi. Au moins le mafé, elle va le goûter.
Comme entre elles, on imagine, tu vois, un quartier populaire avec des femmes qui sont des mères de famille, elles vont pas échanger forcément au départ des questions philosophiques sur Montesquieu.
Ah bah ça,
mais par contre, échanger des recettes ou se faire goûter des plats, c'est une manière d'une interculturalité qui
bien
commence
sûr.
Par des choses de plaisir.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Ali Guessou, mais nous parlons de Attention, travail d'arabe ou la déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes. C'est le titre de son petit album qui vient de sortir aux éditions Atland. Peut-être que dans une dernière partie de notre émission, on pourrait à la fois avancer dans votre réflexion. Il y a le graphisme, il y a le slogan, il y a toute cette image détournée, je le répète. Et il y a aussi cette volonté que vous avez de faire passer ce message avec le choix de l'image, du slogan, etc. Et vous avez fait là, tout récemment, et on est dans cette commémoration de la Grande Guerre de 14-18, un travail absolument magnifique au travers à la fois un petit documentaire, un petit film d'animation, documentaire d'animation, pour quand même, c'est du documentaire, puisqu'il y a de l'image historique, et puis il y a de l'image contemporaine au travers les personnages. C'est important aussi pour vous de faire passer cette grande histoire dans ce travail autour de la Grande Guerre, puisque ça va être hommage aux soldats coloniaux, donc ça va être un vrai travail de transmission de cette mémoire, pour dire à Pierre-Paul Jacques que les grands-parents de son copain Sofiane à l'école ou de son copain Issé, ils étaient dans les mêmes tranchées. C'est aussi ça l'histoire.
C'est extrêmement important pour tous de voir ce droit de mémoire, ce droit de restituer à sa juste valeur la présence historique de héros tombés dans l'oubli, qui ont de gré ou de force donné de leur vie pour défendre la France en 1914 et puis après
dans la seconde aussi, bien sûr,
seconde guerre mondiale. Pour les jeunes, c'est une manière aussi d'avoir un curseur dans l'histoire. Pardon, de savoir que ils sont pas là par hasard. La première grande vague migratoire, elle était militaire. La plus grosse vague d'immigration, c'est justement la Première Guerre mondiale qui a amené la France à puiser dans les colonies. Et pas que dans les colonies. Hein. Il y a les Indochinois.
Ben oui, les Kanaks.
Les Kanaks, les Antillais. Hein, on a... il y a plein de territoires comme ça, des dom-toms qui ont aussi été mobilisés dans ce sens. Et je vais donner un exemple de l'utilité. Il y a un peu moins d'un mois, je me suis rendu à Bastia à l'invitation d'une association qui militait contre le racisme à Bastia et sur le territoire pour présenter justement l'exposition Attention au travail d'arabe. Et j'ai tenu une conférence et débat, un échange public. Hein, et vous pouvez pas savoir ce qui était important pour moi de rappeler aux Corses que ce sont les goumiers marocains et tirailleurs algériens qui ont libéré la Corse en 1945 au cours du débarquement, qui ont débarqué à Ajaccio avant de remonter sur Bastia et plus tard de fouler les pieds de la Provence avec Marseille. Et c'est hyper important au moment où il y a eu des tensions ethniques, où vous avez des dérives racistes avec Arabia Fora écrit dans certaines rues d'Ajaccio.
Oui, les Arabes dehors.
Les Arabes dehors, de dire mais vous savez que vous avez été libérés par les Arabes quand même. Donc voilà le type de levier que ça peut et que ça doit aussi avoir pour lutter contre le l'oubli, pour lutter contre le racisme et le fascisme en général.
Ali Guessou, vous êtes fondateur donc de l'association Remember.
Il y a un petit jeu de mots.
Il y a un jeu de mots, expliquez-nous, Remember.
Alors Remember, c'est ce souvenir.
Pour ceux qui parlent anglais, c'est ce souvenir.
Évidemment, c'était l'occasion ou jamais de se transformer à Beur et de l'écrire BUR, évidemment, se souvenir de c'est une manière, un auto-jeu de mots presque, hein, de d'utiliser l'idée de la mémoire avec celle de la contribution de l'immigration. Donc, c'est vrai que nous, on est appelé la génération Beur, mais par extension, c'est plus pour rappeler la contribution et les valeurs positives depuis ces soldats jusqu'à aux travailleurs des années 60 qui ont construit des routes, des immeubles,
l'automobile,
le rail, les cheminots, puisqu'on en a on évoquait encore les cheminots et la grève, et je rappelle aussi l'autre mouvement important qui est celui des Chibani, hein, qui ont
les retraités de la SNCF. Exactement.
Qui ont subi le même sort que les retraités de l'armée, hein, c'est-à-dire que c'est le même combat quand c'est des Noirs et des Arabes, ils sont pas payés de la même manière, ni dans l'histoire, ni monnaie trébuchante.
Et la lutte paye, si l'on peut le dire ainsi, puisqu'ils ont gagné, ces Chibani marocains, qui étaient en partie, en tout cas.
Oui, ils ont en partie gagné, ils ont gagné, et ça c'est une super nouvelle.
Bien sûr.
C'est, ça prouve bien que la mobilisation est travaillée justement pour rétablir l'équité et puis la mémoire, ça paye. Donc c'est un très bon exemple aussi pour la jeunesse, pour dire que les choses ne sont pas vouées à la résignation, et que quand on croit fortement, qu'on a des convictions, à la fin quand on a quand même...
Il faut y aller. Faut pas baisser les bras, c'est ça. Dénoncer les inégalités avant de faire avancer
nos parents, nos grands-parents dans leur ténacité, dans leur force morale pour résister. On est souvent dans une génération un petit peu de une société un peu de zapping, hein, où on change vite de programme, on se lasse vite, et je pense que moi je suis resté très fortement ancré dans des racines où on lâche rien, on reste solide, on est fidèle à ses convictions, et cette solidité elle paye, comme le travail d'arabe.
Et les affiches elles payent aussi. Combien de temps ça vous prend de réfléchir, d'imaginer ce détournement d'une image? Bon, camembert résident.
Camembert résident.
Résident, c'est le détournement de camembert président. L'immigration, faut pas en faire un fromage, de sous-titre, c'est quand même pas rien, ça non plus. C'est vrai, t'en fais tout un fromage, on est des millions, il faut faire avec nous.
On était de la bonne pâte, de la bonne crème pour occuper un petit peu. Agiter le chiffon pour anxiogène alimenté par la presse, les médias. C'est vrai que la question migratoire, elle a toujours nourri, hein, les repas politiques. C'est pour ça que
les repas politiques, les campagnes politiques, c'était sur notre dos, hein, sur le dos de l'immigration, souvent qu'on a fait.
C'est l'alimentation électorale.
Voilà. L'alimentation électorale, vous continuez. Et justement, dans cette alimentation électorale, vous avez aussi des affiches, justement, qui rappellent ça. Cette affiche? Vous nous la présentez, l'affiche alimentation électorale? Sur les rayons, qu'est-ce qu'on y trouve?
C'est une épicerie, donc effectivement, c'est appelée alimentation électorale, parce que les produits qu'on y vend, c'est justement les Arabes, les Noirs, les Jaunes. C'est ce qui permet à certains de faire toute une carrière politique, hein, un parti même d'exister, de croître, de se développer, comme le Front National qui a fait son beurre sur les beurs, hein, notamment la peur de
l'autre.
Agiter comme seul programme, il faut mettre des Arabes dehors, ça leur a permis d'être au second tour en 2002. Et l'été dernier. Donc, faut croire que c'est vendeur. Les papiers se vendent à merveille, BFM se porte comme un charme, et donc toute la partie anxiogène de faire flipper finalement les Français de l'étranger, de ceux qui ne connaissent pas, a toujours été une recette qui a bien fonctionné. C'est vrai que c'est aussi en partie, c'est moi ce qui m'avait aussi déterminé et amené à m'exprimer, parce qu'on avait un peu ras-le-bol de nous prendre pour des cons. Parce que les problèmes sont pas là, et parce que l'immigration, qui a souvent été une solution et un atout majeur pour la France, hein, et notamment pour son économie, on n'a pas le droit de cracher comme ça dans la chorba ou la soupe, quoi.
Quand vous produisez ces affiches, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous allez dans les écoles, vous allez dans des lieux d'exposition pour le grand public, on va dire comme ça. Quand vous êtes dans les écoles, vous faites des ateliers avec les élèves, avec les classes, qui est un travail qui a été préparé en amont avec les enseignants. C'est important je reviens toujours sur l'éducation, parce que vous le savez comme moi, c'est essentiel, ce travail d'éducation à la mémoire, au devoir de dénoncer des injustices, des inégalités, comme vous le faites là au travers les affiches. Et comment vous présentez vos ateliers avec les élèves?
Il y a d'abord un temps de sensibilisation où les élèves prennent prennent connaissance des affiches, on décortique justement chaque thématique, parce que comme vous l'avez souligné dans le livre, il y a en vis-à-vis des affiches, il y a le texte qui permet de rappeler un fait historique, politique ou culturel. Et donc, dans les interventions menées auprès des élèves, il y a une explication dans le texte de chaque affiche à quel événement particulier elle fait référence, pourquoi cette image ou ce jeu de mots ou cette dénonciation. Et passer ce temps de sensibilisation, il y a un temps après d'atelier en écriture où on passe la main, en fait, en disant voilà, nous on a pris le stylo pour se raconter, maintenant c'est vous qui allez vous raconter. Et donc c'est encadré par les écrivains.
En interaction avec les enseignants et les élèves, c'est bien ça.
Et l'idée, c'est que après nous, on sème un champ du possible après eux d'amener leurs graines et de fleurir un petit peu et d'amener leur propre regard et surtout leur propre mot, d'avoir un regard distancié avec ce qu'ils ressentent aussi, ce qu'ils entendent dans la famille ou ce qu'ils ont comme sentiment par rapport à leur histoire et à leur présent en France, au sein d'un établissement scolaire, au sein d'une ville ou d'un quartier.
Évidemment, je ne pourrais pas décrire toutes les affiches, mais je ne peux pas oublier. Mes racines sont d'ailleurs, mais c'est ici que je fleuris. Vous nous décrivez cette image ?
Alors, c'est la dernière image du livre et de l'exposition.
Devrait être le phare de.
Parce que il y a
de l'avenir, de Remember.
Ben oui. Souvenez-vous de demain. c'est quand même important de finir aussi sur une note. Positive, hein. Dire que toutes ces histoires cumulées, passées, ces blessures, on a réussi aussi à donner des mots, à poser à les surpasser avec un parcours personnel, individuel ou collectif, hein. Et que même si on a des sentiments que il faut être fier de ses racines. Elles sont multiples, elles sont africaines, elles sont maghrébines, elles sont chinoises, pour l'ensemble des héritiers de l'immigration. C'est pour la plupart, c'est en France que nos générations se sont constituées, se sont construites, ont mûri, sont épanouies, ont pu prendre de l'envol. Et c'est là qu'on s'est effectivement, comme un papillon, on a pris notre envol après cette réponse. Nuit et enrichi d'une double culture française et africaine ou maghrébine ou arabe, et ça on peut qu'en être fier en fait.
Mes racines sont d'ailleurs, mais c'est ici que je fleuris, ce seront les mots de la fin. Moi j'ai envie de dire un mot sur l'image quand même, parce que ce sont deux mains ouvertes, elles sont pleines de henné, de jolis ornements de henné, hein, d'arabesque et de henné sur les deux intérieurs de la main, et au milieu il y a l'hexagone, il y a la France où l'on grandit, la France où l'on fleurit, et les racines sont ce tatouage et sont cette histoire qui est une histoire de transmission aussi.
Oui, complètement, et rappeler qu'on est chez nous, on est bien ici, on est totalement dans notre parcours, on n'est pas là par hasard, pour certains nés ici, donc il n'y a aucune raison de se sentir boiteux ou faut être fier de son parcours, de ses origines, mais en même temps aussi de son présent et d'envisager l'avenir avec détermination, se dire qu'on a toute notre place ici.
N'en déplaise à certains.
Merci Samia.
Merci Ali Guessoum d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM nous présenter Attention au travail d'arabe ou la déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes. Ce livre vient de paraître aux éditions Atland, à conseiller entre toutes les mains. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de rencontre.
Rencontre sur Beurre FM.